Heureux de vous accueillir, soyez bienvenus pour ce nouveau numéro d'International, l'émission que nous réalisons en liaison avec Radio France Internationale et notre confrère Le Monde. Vous êtes sur les antennes également donc de TV5 Monde. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio du Parlement européen, nous sommes à Bruxelles et nous accueillons le Premier ministre de Belgique, Monsieur Élu Rocco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de questions à vous poser, un agenda, comme on dit, très chargé, avec des élections législatives, élections européennes. Nous parlerons de ce qui se passe en France également, avec la nomination de Manuel Valls. Et puis nous parlerons de l'international, Rwanda, Ukraine, et des questions sociétales. Pour vous interroger, à mes côtés, Sophie Malibaud, de Radio France Internationale, et Philippe Ricard, correspondant européen, ici même à Bruxelles, du quotidien Le Monde. Alors peut-être, avant de vous interroger, présentation de ce pays très atypique, la Belgique, d'un système institutionnel politique très particulier, avec ce rappel.
Ce petit pays à la croisée des civilisations est souvent perçu comme un laboratoire de l'Europe. 11 millions d'habitants, dont plus de 20% de sa population d'origine étrangère, dans une monarchie constitutionnelle dotée d'institutions particulièrement complexes. Trois langues officielles, trois régions à l'autonomie étendue, avec leur propre gouvernement et parlement, et un antagonisme entre flamands et wallons, mettant en péril l'unité de l'État.
Depuis notre indépendance en 1830, ce drapeau signifie la Belgique. C'est ça, c'est tout.
Au milieu, Bruxelles, capitale internationale, siège des principales représentations de l'Union européenne ou bien de l'OTAN. Cette mécanique bien huilée s'est pourtant grippée durant près d'un an et demi. 541 jours sans gouvernement, un record dans l'histoire d'une démocratie. Et pourtant, la Belgique a su résister à la crise économique. L'art du compromis y est peut-être pour beaucoup.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution.
Aujourd'hui, le Premier ministre Élodie Rupo dirige une coalition de 6 partis politiques. Le pays n'échappe pas à la montée des partis populistes. Dans le même temps, la Belgique sait faire preuve d'avant-gardisme dans ses choix sociétaux. Le mariage homosexuel est une réalité depuis 10 ans. Récemment, l'euthanasie a été élargie aux mineurs.
142 votants, 86 pour.
Aujourd'hui, le pays est en campagne pour les élections du 25 mai prochain, législatives, fédérales, régionales et européennes. Au cœur du débat, une grande réforme de la fiscalité. Là aussi, les débats sont vifs. La question est loin de faire l'unanimité.
Et Élodie Rocco, on va commencer, si vous voulez bien, par les élections en Belgique, puisqu'on a vu que, à chaque consultation de cette nature, il risquait d'y avoir une crise longue. La dernière a duré, on le rappelait, 541 jours. Tout d'abord, peut-être un mot sur le pays, une originalité extrêmement forte du système politique institutionnel, une monarchie. Vous êtes socialiste, vous gouvernez avec la droite. Ça marche quand même? Ça marche?
Ah oui, ça
ne marche qu'en Belgique, ça?
Ça, je ne le dirais pas. Mais donc, en effet, ça marche. D'ailleurs, nous avons traversé la crise mieux que beaucoup d'autres pays européens, et notamment des pays de la zone euro. Mais c'est vrai que c'est un gouvernement avec une gauche socialiste, une droite libérale et un centre. Mais nous avons pu avancer et nous avons connu cette crise de 541 jours. Mais nous avons stabilisé le pays, nous avons retrouvé de la crédibilité internationale et je reste confiant pour l'avenir. Et bien sûr, personne ne peut écrire à l'avance ce que sera l'avenir, mais en revanche, je crois que nous pouvons rester confiants.
Sophie Malibaud.
Alors du coup, ces bons résultats, où est-ce qu'il faut les créditer, puisque c'est une coalition très large? Alors, est-ce que ça n'est pas de nature à semer la confusion pour les électeurs qui s'apprêtent à aller aux urnes?
Alors nous avons donc très clairement fait en sorte d'éviter l'austérité. Quand je suis arrivé comme Premier ministre, on prônait, quand je dis « on », à la fois la Commission européenne, les institutions internationales, bon nombre d'économistes, les uns plus intelligents que les autres, prônaient l'austérité, c'est-à-dire des mesures de restriction.
La rigueur.
C'est encore différent. Mmh. L'austérité avec des mesures de restriction très fortes en disant, une fois que vous aurez réduit votre déficit, eh bien, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Je n'y croyais pas du tout. Et nous n'avons pas opté pour cette austérité. Nous avons opté pour une rigueur. C'est-à-dire que nous avons diminué le déficit, nous avons vraiment fait en sorte que ce soit raisonnable, que ce soit soutenable pour les citoyens, mais en même temps, c'est ce qu'on appelle la recette belge, grâce à ce jeu de compromis, nous avons protégé le pouvoir d'achat des citoyens et nous avons fait en sorte de soutenir l'économie. Donc soutien de l'économie, pouvoir d'achat des citoyens et rigueur, c'est ce qui a fait la recette belge.
Mais vous dites nous avons fait ci.
Oui, parce
donc
que...
vous êtes six à avoir fait ça. Les électeurs, maintenant, ils vont aller aux urnes.
Oui,
ils vont voter
pour les
socialistes ou pour les libéraux-démocrates.
Il y a des mesures très nettement socialistes, par exemple, en termes de pouvoir d'achat. Nous avons maintenu ce qu'on appelle l'indexation, c'est-à-dire cette augmentation automatique des salaires et des allocations en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Nous avons augmenté les allocations les plus basses. Nous avons fait en sorte que les salaires les plus bas puissent bénéficier de plus de 300 euros par an. Nous avons diminué le prix de 2500 médicaments et diminué le prix du gaz, de l'électricité et des télécommunications. Ce qui veut dire que nous sommes certainement le gouvernement le plus social d'Europe, mais encore une fois, nous n'avons pas opté pour l'austérité, nous avons opté pour cette recette qui est une recette belge.
Philippe Ricard, Le Monde.
Qu'est-ce qui vous rend si confiant par rapport aux prochaines élections générales en Belgique? Parce que la NVA n'a jamais été aussi haute dans les sondages.
La NVA, c'est le parti national.
Alors, il y a les sondages, je le répète souvent, moi-même ai connu en 2009, la veille de l'élection, des sondages qui prévoyaient le pire. Le lendemain, ma famille politique, le Parti Socialiste, fut le premier parti de la partie francophone du pays. Donc les sondages, c'est une image momentanée à un moment donné.
Une photographie, oui.
Et c'est une photographie instantanée, mais ce ne sont pas les résultats électoraux. Et je pense que les partis flamands, puisque vous savez qu'en Belgique, les néerlandophones ne peuvent pas voter pour des candidats francophones, et les francophones ne peuvent pas voter pour les candidats néerlandophones. Et donc je vois bien mes collègues, que j'appelle des partis raisonnables flamands, qui ont ce désir de vaincre, et je leur fais confiance quant à cette capacité.
Est-ce que le NVA est un parti raisonnable? Est-ce que vous pourriez vous gouverner avec
c'est très clair, il est impossible au Parti Socialiste de se mettre autour de la table pour scinder le pays. Donc le Parti Socialiste est un bouclier contre la scission, contre le séparatisme. Il n'est pas question que nous puissions nous mettre autour d'une table pour discuter.
C'est-à-dire qu'on repartirait pour une crise politique comme on l'a connue pendant plus de 500 jours.
Alors
le risque existe.
On n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout là. Donc il ne faut pas être alarmiste. Moi, je reste confiant. Et je sens dans les partis que j'appelle les partis raisonnables néerlandophones une volonté.
Ce sont lesquels, par exemple?
Les partis qui gouvernent avec moi, que ce soit le Parti Socialiste Flamand, que ce soit le Parti Chrétien Démocrate, le Parti Libéral Flamand, et il y a les Verts Flamands. On sent bien qu'ils ont cette volonté de ne pas donner trop d'espace.
De ne pas faire éclater le pays comme la menace en avait été faite.
Très clairement, les partis que j'appelle raisonnables sont des partis qui ne veulent en aucun cas faire éclater notre pays.
Mais aujourd'hui, la NVA, les nationalistes flamands, s'ils recueillent autant de suffrages que le laissent penser les sondages, souhaiteraient peut-être cette fois faire partie, mener la danse, faire partie du jeu politique,
très
ne
clairement,
pas se laisser exclure en tout cas.
Oui, mais très clairement, si c'était les sondages qui gouvernaient, on le saurait. Il y a des élections le 25 mai. D'ici là, il y a une campagne électorale. Chaque formation politique expliquera clairement sa position et il faut attendre l'issue de cette campagne électorale et l'issue des élections du 25 mai.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont quand même changé de ton?
Non. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le circuit de Francorchamps. C'est un circuit automobile avec plein de tournants. Et on ne sait pas très bien avec la NVA. Tantôt, ils parlent sur le plan institutionnel. Tantôt, il parle sur le plan économique.
Il y a beaucoup de virages.
Et il y a des virages et on ne s'y retrouve plus tellement. Voilà en réalité la perception que nous avons de cette formation
politique. Vous êtes candidat vous-même à être reconduit dans vos fonctions
de Premier ministre ? Je suis candidat dans ma province, est la province de Hainaut, et je suis candidat à la Chambre des représentants.
Qu'est-ce que vous pensez des premiers pas, on va dire, municipaux de Bart De Wever ? Est-ce que vous craignez, étant donné son bilan le leader de la NVA,
comment vous jugez ces premiers pas ? Si j'en crois un certain nombre d'observateurs, ce n'est pas un très grand bourgmestre, donc ce n'est pas un très grand maire. Il a conquis en effet la ville d'Anvers, mais Anvers est une situation tout à fait spécifique. Autre chose est la Flandre, ou les Flandres, espace dans lequel la NVA va devoir se mouvoir.
Nous travaillons régulièrement, vous le savez, avec nos confrères de la RTB. Il y avait ce film fiction sur l'éclatement de la Belgique qui a connu un tel succès. Est-ce que il est prémonitoire, c'est un film prémonitoire ou un film qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'avenir prévisible de votre pays?
Non, pour le moment, le pays est réellement stabilisé. Nous avons une crédibilité internationale absolument confirmée. Pour que je vous donne un exemple, nous avons un stock de dettes publiques, des autorités publiques, d'environ 100% du PIB, du produit intérieur brut.
De la richesse produite annuelle.
Nous empruntons dès lors environ 40 milliards par an. Mmh. Avant que mon gouvernement ne soit formé, nous payons des taux d'intérêt d'environ 6%. Nous en sommes maintenant à 2,2%. L'écart est énorme et ça fait un gain substantiel. Nous avons calculé que directement et indirectement, ça représente 2,5 milliards par an. C'est bien entendu de l'argent qu'on ne demande ni aux citoyens ni aux entreprises. Donc là, on a stabilisé le pays, il y a de la crédibilité, nous devons continuer dans cette voie.
Mais est-ce que vous comprenez les critiques des Flamands en général et ceux qui risquent éventuellement de voter pour le nationalisme, les tendances séparatistes? Du fait que les Flamands ont une économie qui, elle, semble beaucoup plus dynamique que la Wallonie, qui a un chômage bien inférieur en Flandre qu'en Wallonie.
Si vous me permettez, c'est simplement dû à l'histoire. La Wallonie, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, a un différentiel de croissance supérieur aux autres régions voisines, pas uniquement la Flandre. Deux, la Wallonie a été... la Wallonie a été retenue par la Commission européenne avec la Toscane comme étant l'une des deux régions les plus innovantes, avec un potentiel d'innovation très important en Europe. La Wallonie récupère son retard. Mais que s'est-il produit ? La Wallonie, durant très longtemps, a été mère nourricière du pays avec des charbonnages, des verreries, des cimenteries, de la sidérurgie. Puis toutes ces grandes entreprises ont malheureusement très largement disparu, faisant disparaître des milliers et des milliers de petites et moyennes entreprises. Et donc il a fallu plusieurs décennies pour retisser ce tissu de PME. Mais nous sommes en train de réaliser ce travail. Et de plus en plus d'observateurs considèrent qu'en effet, il y a un redressement en Wallonie. Mais c'est une question de tempo. Il faut du temps. Vous voyez, certaines entreprises licencient 1 000, 2 000 personnes par une décision du conseil d'administration, alors qu'il faut beaucoup de temps pour créer 5 emplois, 20 emplois, 50 emplois. Mais c'est en tout cas le cas de la Wallonie.
Philippe. Vous mettiez en avant les bons chiffres budgétaires d'endettement de la Belgique. Vous voyez dans ce contexte que la crise de l'euro est finie, au moins pour la Belgique.
En tout cas, nous sommes dans une phase où pour la première fois, on voit la croissance revenir. Pour la Belgique, la croissance est estimée prévue à 1,4% du PIB. C'est beaucoup mieux que la France, que l'Italie, que l'Espagne, par exemple. Quel est le Pays-Bas, qui a toujours été un pays de comparaison pour les Belges. Oui, nous sortons de la crise, mais l'Europe doit aussi accomplir des efforts additionnels. On a quand même connu des années qui étaient de très mauvaises années pour tout un chacun. Et là, il y a un travail européen.
Élodie Roupeau, vous nous dites qu'effectivement, en matière économique, il y a un dynamisme ici en Belgique. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de vos amis socialistes français qui vont à Bruxelles demander, on n'ose pas dire quémander, mais enfin demander une certaine indulgence pour pas être tout à fait dans les clous des 3% de la rigueur? Vous dites ils font pas le boulot, ou vous dites c'est bien, il faut que l'Europe soit indulgente?
Alors, ne m'en veuillez pas, mais je ne...
Ah non, on
pas...
veut des réponses ici.
Oui, non, mais je comprends bien. Sinon, vous ne seriez pas journaliste si vous ne vouliez pas de réponses. Mais donc, je ne vais pas porter un jugement sur la politique intérieure française. Non. Une chose est certaine, c'est qu'il faut que les efforts soient soutenables pour les entreprises et pour les citoyens. Nous-mêmes, dans la recette belge, on a été très attentifs à cela. Parce que sinon, on casse ou bien la consommation intérieure, gravement, ou bien alors on casse la machine économique. Et quand il y a reprise, si vous avez porté atteinte gravement des entreprises, les entreprises ne sont plus là pour bénéficier de la reprise. Donc, je pense qu'au niveau européen, la future Commission européenne, et pas uniquement que la Commission d'ailleurs, en ce compris les sommets, le Parlement européen, devrait analyser la situation en permettant de laisser du temps au temps pour que ça reste très sérieux, parce qu'il faut continuer à réduire les déficits, mais en même temps d'une manière qui soit soutenable.
Pour vous, il n'y aurait pas de problème à accorder, disons, un an, deux ans de plus de délai à la France pour qu'elle descende son déficit en dessous de 3%.
Je vais vous parler de la Belgique. Nous avons pris des mesures structurelles, nous avons fait des réformes structurelles.
En tenant les délais, non ?
Nous sommes dans les délais.
Mais la France a déjà obtenu des délais, M. le Premier ministre.
Oui, mais je vais vous parler de mon pays. Donc, nous avons pris des réformes structurelles en termes de pension, parce que nous avions le problème des pensions anticipées. Les gens partaient beaucoup trop tôt à la pension, en termes du marché du travail, en termes de justice.
En pré-retraite, comme on dit dans d'autres pays, ou en retraite.
En pré-retraite, en effet. Sur le système bancaire, nous avons aussi pris une loi qui est l'une des plus sévères sur le plan européen, justement, pour éviter qu'on
vous entend bien, vous parlez de la Belgique. On a aussi envie de vous interroger sur d'autres pays. Est-ce que les Français font le boulot ? Est-ce qu'ils sont aussi rigoureux que vous ?
Du pacte de responsabilité, par exemple. Est-ce qu'on est sur la bonne voie avec
ce
pacte ?
Alors, d'abord, je vous permettez. Donc, je termine en disant que ce n'est pas à un an ou deux ans près, pour autant qu'on prenne les mesures qui s'indiquent et qu'on respecte alors une certaine trajectoire. Par ailleurs, pour ce qui concerne ce fameux pacte, nous, vu de la Belgique, c'est finalement épouser un peu ce que nous faisons. Je m'en explique. Nous avons pour tradition d'avoir un dialogue permanent entre patrons et syndicats. Le dialogue social en Belgique est quelque chose de fondamental. C'est d'ailleurs sur base de ce dialogue patron-syndicat que nous avons construit notre société. Et pour vous donner un exemple, quand ils ont un accord entre patrons et syndicats, le gouvernement ne discute pas. En général, le gouvernement prend les actes, les arrêtés, les lois qui s'indiquent, mais nous avons cette confiance. C'est vrai que si au niveau français, et encore une fois sans intervenir, si le dialogue pouvait s'instaurer dans l'intérêt des entreprises et des citoyens, ce serait à mon avis un élément qui serait positif.
En fait, il s'agit ni vraiment de la Belgique toute seule, ni franchement de la France, il s'agit de l'Europe.
C'est évident.
Quelle crédibilité pour les instruments de discipline commune ? Donc c'est quand même intéressant de répondre aux questions qui peuvent être concernées la France. Je voulais savoir, en Italie, on voit très bien que M. Renzi, tout comme Manuel Valls, prend un peu ses distances avec le pacte de stabilité et de croissance. Est-ce que vous, en tant que socialiste, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, notamment dans le contexte des élections européennes à venir ?
Alors, je reste dans la rigueur. Nous avons fait en sorte de revenir à des déficits qui soient inférieurs à moins 3%, donc des déficits plus légers, et ça nous permet d'avoir des marges de manœuvre. Nous respectons les engagements que nous avons pris, donc nous ne demandons pas d'autres formes d'engagement. D'un autre côté, on doit aller plus loin. L'Europe a pris un certain nombre de mesures d'austérité, mais il y a autre chose à faire. Il y a une plus grande harmonisation. Il y a, sur le plan fiscal, sur le plan du dumping social. Quand vous imaginez que, par des directives européennes, on a réussi à déréguler les flux de travailleurs, que ce soit en France, aux Pays-Bas ou en Belgique, où on voit des travailleurs notamment venus de l'Est, certains du Sud aussi, qui sont payés à 2 euros. Nous avons des procès-verbaux qui montre que des employeurs ont payé, en termes de rémunération, ces travailleurs à 2,06 € l'heure. Vous imaginez le scandale. Ils ne payent pas de cotisations sociales. Il y a une dérégulation qui est inacceptable. Donc l'Europe a pris un certain nombre de mesures, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut une harmonisation beaucoup plus forte et une convergence des politiques.
Par exemple, un salaire minimum européen ?
Par exemple. Mais oui, parce que il y a un côté qui est surréaliste, c'est qu'à la fois, nous sommes un espace ouvert en termes de capitaux, de marchandises, de biens, de travailleurs, mais il y a de telles différences fiscales, sociales dans les pays qu'il y a une concurrence acharnée à l'intérieur de l'Union européenne. Et qu'en plus, à l'intérieur de l'Union européenne, il y a 18 pays qui ont l'euro comme monnaie commune et qui n'ont même pas un système bancaire, à l'instar de la Grande-Bretagne, des États-Unis ou du Japon. Donc, il y a là vraiment du travail au niveau européen.
Beaucoup de questions encore à vous poser après cette pause, ce journal sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde. On se retrouve tout de suite.